Vous êtes sur RTL. Pascal Pro sur RTL.
Et David est avec nous. Mais vous voyez, David, on s'interroge toujours, et on en parlait avec Christelle il y a quelques secondes, comment le public, les auditeurs, perçoivent une information qui est donnée. Et j'ai le sentiment que vous avez perçu la télévision qui entrerait dans les cours d'assises comme un procès en direct et permanent.
En direct, je pense pas, parce que on va quand même pas tout montrer et surtout pas tout dévoiler. Autrement, ça serait pas marrant. Mais oui, la télévision qui rentre et qui montre un petit peu en faisant du voyeurisme à la façon de Love Story, oui, je vois ça plutôt comme ça. Oui. Mais alors il faut traiter la chose. C'est pourquoi Monsieur Dupond-Moretti a décidé de faire ça. Alors, est-ce que c'est pour redorer le blason de la justice, parce que la justice, elle est pas du tout bien perçu par la plupart des Français. Je pense que quand, encore une fois là, on vient de voir un fait d'actualité où une mère de famille porte plainte contre la justice. Alors là, c'est là quand même qu'on est, on est dans le somnum, hein, quand même, on est dans, parce que voilà, encore un énième individu qui a fait des méfaits se voit relâché encore une fois. Alors est-ce que c'est la justice, est-ce que c'est administratif, on n'en sait rien au bout du compte.
Ah si, on en sait précisément, on sait toutes. Alors c'est pas le débat de la justice là et de la télévision, mais puisque vous parlez des parents de Anne-Lise, on sait précisément que l'homme avait été condamné à 5 ans de prison, dont une année avec sursis, qu'il est sorti au bout de 2 ans et 29 jours précisément, 2 ans et 29 jours. Bravo. Il avait donc fait quasiment la moitié de sa peine, et que c'est le juge d'application des peines qui a consulté les experts, notamment un expert psychiatre, qui trouvait qu'il y avait peu de risque de récidive et qui l'a sorti dehors. On sait précisément comment ça s'est passé.
Donc là, je sais pas comment les Français peuvent percevoir ça quand même, parce que condamné à 5 ans pour un viol, et puis il l'a un petit peu massacré, la fille avant.
Je suis d'accord avec vous. Hein. Je suis parfaitement d'accord avec vous.
Et puis là, on leur lâche, et allez, bonne conduite 2 ans et demi après. Le mec est à peine relâché, il recommence. Non mais il arrive un moment, c'est l'application des peines, soit on les fait, soit on les fait pas. Monsieur Dupond-Moretti, il a envie de redorer le blason. Bonne chance à lui. Alors peut-être que c'est les planches qui lui manquent, ou bien les projecteurs, je sais pas. Bah, c'est ironique, hein, ce que je dis, mais il arrive un moment, la justice, elle est très très mal perçue par les Français. C'est pas un petit coup de fait médiatique comme ça. Oui, on va vous aider, il y aura une transparence totale, vous verrez qu'on fait un boulot formidable, que tout le monde, tout est équitable. Non, mais non, à ce jour, qu'est-ce qu'il y a? La justice, que se passe-t-il en France? Les Français ne croient plus à la justice. C'est simple, des individus qui sont condamnés 17 fois, 20 fois, 25 fois, qui sont relâchés, mais c'est quoi? Il y a qu'en France qu'on voit ça. C'est pas possible, c'est quoi ça? Donc on peut faire n'importe quoi. Par contre, j'ai envie de dire que la justice est à deux poids deux mesures, hein. Et puis la justice a plusieurs vitesses, hein. Quand il y a des choses qu'il faut pas trop dévoiler, la justice, on n'en entend pas trop parler. Mais quand il y a des, voilà, la justice par rapport aux gilets jaunes, là, les gars qui sont fait borner, on sait pas vraiment ce qui s'est passé, puis ça dure dans la longueur, puis à la rigueur, si ça pouvait être étouffé, ça serait pas plus mal. Par contre, la justice par rapport à des faits politiques, c'est vrai qu'on en entend un peu plus parler et qu'il y a des condamnations, mais c'est quand même à minimiser.
Merci David, et je comprends effectivement ce que vous voulez dire. Alors là où vous avez raison, et je partage tout à fait votre avis, comme j'imagine beaucoup de gens qui nous écoutent, c'est que l'homme dont vous parlez, qui a donc violé cette jeune femme Anne-Lise, qui a 17 ans, il a été condamné en décembre 2018 à 5 ans de prison, je le répète, pour séquestration, violence et agression sexuelle sur son ex-compagne. Donc il est incarcéré à la maison d'arrêt de Lyon-Corbas. Et effectivement, il est sorti, je l'ai dit, le 5 mai 2020. Et c'est la décision du juge d'application des peines qui avait été rendue en 2020. Donc pour séquestration, violence et agression sexuelle, il prend entre guillemets, et déjà j'étais un peu surpris de la peine, simplement 5 ans, dont un avec sursis, et il sort au bout de 2 ans et quelques mois, et même 2 ans et 29 jours précisément. Donc on se dit, et là je vous rejoins, qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas bien, ça c'est clair, et ce n'est pas commenter une décision de justice que de dire cela, c'est exprimer un sentiment, j'imagine, que le plus grand nombre partage. On va marquer une première pause, et la justice et la télévision, qu'est-ce que vous en pensez? À tout de suite.
Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Bonjour Laurent Tessier.
Bonjour Pascal, bonjour à tous. Souhaitez-vous voir des procès à la télévision, plus de transparence, mieux connaître le fonctionnement? Craignez-vous au contraire une justice spectacle du voyeurisme? Le ministre Éric Dupond-Moretti a présenté ce matin au Conseil des ministres son projet de loi pour restaurer la confiance dans la justice. L'avocate pénaliste Marie Dosé, invitée de RTL Midi, a quelques craintes.
Pour moi, c'est du voyeurisme. On juge justice de faire entrer chez soi des audiences à la télévision. Je ne comprends pas la vertu pédagogique qui nous est assénée sur ce projet. C'est tout de même une véritable atteinte à la sérénité du débat que de filmer une audience. Il va y avoir un risque de starification des acteurs judiciaires et notamment des avocats, dont c'est quelque chose. On va tomber dans la justice spectacle.
Alain souhaite voir des procès à la télévision.
La starification des avocats, excusez-moi, qui est lors de... à la sortie du procès, sont devant les caméras, ça ne va pas changer grand-chose.
Alain nous donne son avis sur la page Facebook RTL, les auditeurs ont la parole. Il souhaite voir des procès à la télévision, certains pourraient comprendre ce qu'ils risquent en faisant n'importe quoi. Un bon moyen pour Eric de comprendre le fonctionnement de la justice. Marie-Louise a une crainte que certains fassent leur vedette pendant un procès, ne soit pas naturel. Bienvenue à la justice spectacle, lance Grégoire. Emmanuel Macron avait prévenu il y a quelques mois, se rappelle Aurélie.
Nous sommes devenus une nation de 66 millions de procureurs.
Et oui, avec des procès à la télévision, chacun, oui, va se mettre dans le rôle du juge.
Et si vous êtes avocat, appelez-nous parce que c'est vraiment intéressant. On va peut-être prendre, pourquoi pas, Charles, qui est juriste et qui habite Lyon. Bonjour Charles, justice
oui,
et télé.
Oui, bonjour Pascal.
Qu'en pensez-vous? Bonjour.
Écoutez, moi je suis très favorable à cette réforme, enfin à cette idée, parce que je pense qu'elle est pédagogique. De deux côtés. D'une part, peut-être apprendre un petit peu aux gens comment fonctionne la justice. En fait, la justice est détestée en France. Enfin, c'est mon impression. Elle est détestée parce qu'elle est méconnue. Finalement, dans une vie, on peut ne jamais aller au tribunal, c'est possible. Et donc, on ne la connaît pas. Et on ne connaît la justice que par les médias. Et les médias, oui, il renvoie une image de la justice spectacle. La page fait divers dans les journaux, les affaires qui défraient la chronique. Donc oui. Mais en revanche, si la justice organise elle-même sa propre télévision, j'allais dire sa propre diffusion, je pense que ce sera fait d'une façon sobre et ça montrera aux gens comment ça fonctionne. Et puis peut-être aussi que quant à ceux qui sont capables de commettre des faits répréhensibles, ça leur fera peut-être un petit peu plus craindre la justice. Peut-être qu'on reprendra confiance dans la justice globalement. Moi, je pense que quand l'idée vient d'un avocat, et c'est le cas de Dupond-Moretti, je pense que c'est plutôt bénéfique parce que lui connaît le fonctionnement de la justice au fond. Et moi, la seule chose dont j'ai peur, c'est que les magistrats ils soient particulièrement réfractaires. Mais moi, j'aimerais bien que tout le monde adopte cette solution dans la sobriété.
Mais surtout, ce qu'il faut préciser, c'est combien ces audiences filmées seront encadrées. L'essentiel, c'est que la diffusion ne sera possible qu'une fois que la décision rendue sur le fond sera devenue définitive.
Bon, ben voilà.
Donc, il ne s'agit pas de retransmettre en direct des grands procès d'assises et d'en faire précisément un spectacle en direct.
Ben, c'est comme ça que je le voyais aussi.
Et je trouve au contraire que c'est intéressant à titre journalistique et historique. Je citais tout à l'heure le procès d'Omar Radad. Moi, ça m'intéresserait. Par exemple, de voir comment ça s'est passé. Si, par exemple, le procès Patrick Henry en 77 ou 78 avec Robert Badinter, la plaidoirie de Robert Badinter, ça m'intéresserait de
l'écouter.
C'est passionnant. Voilà, ça, je trouverais ça intéressant. Mais c'est une vision historique, quasiment une vision de témoignage. Il faut jamais refuser la télévision et la radio, parce qu'il faut penser aux générations futures. On serait bien content aujourd'hui si on avait effectivement ces témoignages-là, s'ils avaient été enregistrés. Et on est bien content d'avoir le procès de Nuremberg et le procès d'Adolf Eichmann.
Oui.
C'est passionnant même de l'avoir, ce procès Eichmann. Il passe régulièrement d'ailleurs sur les chaînes info.
Et puis Pascal, comme disait un de mes profs de droit, le droit, c'est la vie.
Bah, écoutez, oui, c'est la vie, c'est l'histoire. Merci Charles. Théo est avec nous. Bonjour Théo, vous êtes étudiant en droit, pardonnez-moi. Oui. Votre avis?
Alors oui, bonjour Pascal.
Bonjour.
Alors, moi, je pense que derrière le projet de Dupond-Moretti, je vois surtout une manœuvre politique. Moi, je pense pas que ça aura vraiment d'effet sur la vision des Français vis-à-vis de la justice, parce que il y a des centaines de procès chaque jour, et lui, il va en diffuser au compte-gouttes chaque semaine quelques-uns. Donc il n'y aura pas vraiment une vision d'ensemble sur la justice. J'avais vu encore un sondage de l'IFOP qui est paru il y a quelques semaines qui disait que 85% des Français pensaient que la justice était laxiste en France. 85%, c'est énorme. Et j'ai regardé au niveau des chiffres qui sont donnés par le ministère de la Justice. Et effectivement, il y a vraiment des problèmes. Si on regarde, là tout à l'heure vous parliez du viol de cette mineure de 17 ans qui a été violée par un individu qui a été libéré plutôt prévu, plus au début 2020. Au niveau global, il y a un vrai problème au niveau de la justice. J'ai 67% des pédophiles condamnés qui sont donc reconnus coupables ne vont pas en prison. 67%, donc plus de 2 sur 3. La peine moyenne effectuée réelle pour un meurtre, c'est 10 ans en France, alors que c'est 30 ans dans le code pénal. Là, on est sur 10 ans. Donc évidemment, dans les procès médiatisés comme le procès de Daval, là, on est sur des grosses peines, mais les procès qui ne sont pas médiatisés, souvent les juges donnent des peines qui sont ridicules par rapport au code pénal. Si, au niveau des viols, la peine réelle effectuée derrière les barreaux, hein, je ne parle pas des bracelets électroniques, etc., c'est 5 ans. 5 ans, à la place des 15 ans prévus dans le code pénal. Et c'est vraiment, pour moi, c'est ça qui compte. Ce n'est pas quelques procès qui sont diffusés, c'est les chiffres vraiment sur des milliers de condamnations. La moyenne des peines effectuées, le taux de récidive qui est énorme, on est sur du 30% de récidive pour les agresseurs sexuels. Et ça, forcément, quand on voit ça, on se dit qu'il y a un problème. Et enfin, le dernier chiffre, pour moi, c'est le plus terrible, c'est que 90% des victimes des attentats en France seraient encore en vie si le code pénal avait été appliqué à la lettre. Parce que les individus qui ont fait des attentats en France auraient quasiment tous dû être en prison au moment où ils sont passés à l'acte, parce qu'ils avaient déjà une vingtaine de condamnations derrière. Mohamed Merah, c'est 18 faits de violence en liberté à 22 ans. Le terroriste de Strasbourg, c'est 25 condamnations en liberté à 28 ans.
On s'est un peu éloigné quand même, Théo, de notre sujet de départ,
ce que je veux dire vraiment en disant ces chiffres-là qui sont importants, c'est que même si on diffusait les procès, si on les filmait et on les diffusait, je pense pas qu'il y aurait un changement des états d'esprit des Français, parce qu'il y aurait toujours ces faits divers-là qui paraîtraient dans les journaux.
Et puis c'est souvent, téléviser un procès de long en large, ça peut être très très ennuyeux en direct. Il faut que ce soit, oui, évidemment, faut qu'il y ait un travail de montage qui soit fait pour, entre guillemets, séquencer les meilleurs moments. J'ai une question, moi, et on va refermer ce sujet justice pour l'ami Christian Olivier, parce que finalement, il faudra l'interroger. Peut-être dans son émission On refait le match de samedi, je lui propose cette question. Les procès télévisés seront-ils à la justice ce que la VAR fuite au football? Et comme je sais la position de l'ami Christian sur la VAR au football, eh bien, je fais une analogie qui, je l'accepte volontiers, est osée comme analogie.
La VAR, c'est vidéo-arbitrage, on est d'accord?
Bien sûr.
On refait le match sur RTL.
À tout de suite.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL
avec Pascal Pro. 13h, 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL
avec Pascal Pro.
Cette affaire Evian est tout à fait extraordinaire. La marque Evian, que vous connaissez, qui appartient d'ailleurs au groupe Danone, publie un tweet hier qui évoque le fait de boire au moins un litre d'eau par jour. C'est un message anodin de la part d'une marque d'eau qui rappelle les rudiments d'une bonne hygiène de vie. Là-dessus, ce message déclenche un véritable bad buzz parce que hier a commencé le Ramadan. Et des internautes se sentent offensés et y voient même une provocation. Conséquence, Evian, aujourd'hui, a présenté ses excuses quelques heures plus tard, c'était même hier, pour préciser qu'il n'y avait aucune provocation. Ça c'est un sujet qui évidemment nous fait réagir et je voulais connaître votre sensibilité. Solène est avec nous. Bonjour Solène.
Bonjour.
Et merci d'être avec nous. Qu'en pensez-vous ? Qu'en pensez-vous ?
Alors, je suis une ancienne commerciale de chez Evian. C'est une entreprise assez paternaliste qui avait une bonne mentalité. Je suis tout à fait effarée de, du monde dans lequel on vit, d'entendre qu'aujourd'hui, que les gens sont, réagissent à une mesure d'hygiène, enfin une précaution d'hygiène, et que les certainement beaucoup de musulmans réagissent par rapport à ça, du fait que le ramadan commence maintenant. Je trouve ça effarant. On ne peut plus rien dire, on ne peut plus rien faire.
Oui, mais alors ça, c'est une première chose, si vous voulez, dans le dossier. Mais ce que je trouve encore plus extravagant, moi, c'est qu'Evian présente ses excuses.
Oui, je suis d'accord avec vous. C'est le deuxième volet. Je pense que c'est surprenant de la part d'Evian qu'ils présentent leurs excuses. Donc ça prouve bien qu'aujourd'hui, en France, on n'en peut plus rien dire. On ne peut plus rien faire.
Bah, en même temps, c'est une marque qui pense peut-être à ses clients et qui pense forcément que parmi ses clients, bah, il y a des gens, pourquoi pas, qui auront été offensés par cela et qui, dans une démarche commerciale, j'ai envie de dire, peut-être éthique aussi, hein, je ne veux pas lui faire de procès d'intention, eh bien, présente ses excuses. Ça serait intéressant d'ailleurs d'avoir un spécialiste d'Evian, quoi, un spécialiste, un salarié d'Evian, je ne sais pas si c'est le directeur de marketing, le directeur commercial ou le directeur général, mais ça serait intéressant qu'il nous explique pourquoi il a... pourquoi il s'est excusé, tout simplement, Solène?
Je pense que vous avez raison. Je pense qu'il y a une dimension commerciale là-dedans, parce que c'est une société très importante. Donc c'est vrai que certainement, il y a une dimension commerciale. Mais je trouve ça quand même effarant qu'on puisse s'excuser d'avoir de ne pas avoir fait d'avoir dit cette chose qui est pour la santé des gens, et deuxièmement de s'excuser de ne pas avoir pensé que c'était le début du ramadan. Je trouve ça complètement aberrant.
Mais pour tout vous dire, moi, le sentiment que j'ai, c'est qu'aucun musulman en fait n'est choqué par cette publicité. Et je pense que c'est des minorités actives qui feignent d'être choquées. Qui feignent d'être choquées et qui utilisent ça. Et c'est ça le drame. Je suis persuadé qu'il n'y a pas un musulman en France de bonne foi qui est choqué par cette publicité d'Evian. Je ne le crois pas. Mais en revanche, c'est instrumentalisé. Oui, ça je le pense, par ceux qui ont intérêt, même parfois, à jeter de l'huile sur le feu. Mais ce que je vous dis là est improuvable, hélas. Par définition, c'est improuvable. Bon, Solène, merci en tout cas de votre témoignage. Nathalie est là également. Bonjour,
merci,
Nathalie.
Bonne journée, au revoir.
Bonjour.
Bonjour, Nathalie. Votre sentiment sur cette affaire Evian?
Je pense que le communiqué d'Evian est absolument ridicule et ne résonne pas du tout chez les personnes de confession musulmane. Bon, ce qui me concerne, je suis catholique, hein, donc je ne prêche pas pour ma paroisse, j'ai envie de vous dire. Mais en revanche, je côtoie dans mon métier, dans mon entourage, beaucoup de personnes de confession musulmane qui ne demandent qu'à vivre leur ramadan paisiblement, qui ne se reconnaissent pas du tout, et j'en parlais avec des voisines ce matin, pas du tout dans le communiqué d'Evian, et qui trouvent ça ridicule. Et en fait, c'est encore une minorité, comme vous le disiez, qui essaye de faire le buzz, qui laisse croire à notre jeunesse, et ça me fait peur parce que je suis CPE, donc je les côtoie, mes gamins, qui laisse croire à notre jeunesse que les réseaux sociaux ont le pouvoir sur notre société. Voilà, quelques buzz. Et d'un seul coup, Evian se sent d'un communiqué. Enfin, écoutez, pendant le carême catholique, il y avait des pubs sur les bonbons, sur les gâteaux, et aucune société, Dieu soit loué, ne s'est avisée de communiquer quoi que ce soit.
Non, alors, mais je fais la même analyse que vous, Nathalie. Et je regrette qu'Evian, effectivement, ait pu céder d'une certaine manière. Et on peut comprendre, voilà, de ne pas vouloir choquer, de vouloir apaiser, de vouloir... J'entends tout cela, ça s'entend également. Mais il y a une forme de soumission à travers ce tweet, et comme vous l'avez très justement dit, de soumission aux minorités actives des réseaux sociaux.
Et qui ne représentent pas la population.
Mais bien sûr, enfin, mais bien
sûr. Les personnes de confession musulmane.
Mais bien sûr.
Qui trouvent ça ridicule, voire même pire, qui s'en plaignent parce que ça les stigmatise, alors qu'ils ne demandent rien.
Mais vous avez parfaitement raison, et ce que vous exprimez est une parole de bon sens et de sagesse, Nathalie. Merci beaucoup.
Vous savez, juste une dernière chose, je suis CPE dans un établissement catholique.
CPE, on va rappeler ce que c'est, hein, CPE.
Conseillère principale d'éducation dans un établissement catholique à Compiègne. Ouais. On a beaucoup d'élèves qui sont de confession musulmane. Et pourtant, on est un établissement catholique qui le revendique. Et ben, ça se passe très bien. Et ils ne demandent rien. Et ils savent où ils sont. Et ils intègrent
ces
paramètres. Et ça se passe très bien.
J'en suis sûr, et nous-mêmes, médias, avons parfois une responsabilité de toujours mettre en lumière, au fond, ou ce qui ne marche pas, ou... Par exemple, je parle à l'instant de cela, vous voyez. La grande perversité de cela, c'est qu'on pourrait me dire, mais pourquoi tu en parles? Pourquoi tu parles de ça? Et c'est un argument qui s'entend. C'est un argument qui s'entend. C'est-à-dire que moi-même, je mets une pièce dans la machine en parlant de cela.
Oui, c'est pas faux.
Ben oui, effectivement. C'est pas... effectivement. Non, mais c'est... Et vous-même, en appelant, vous mettez aussi une pièce dans la machine.
Mais complètement, j'en suis consciente. Mais je trouvais important de dire que ce n'est pas le reflet de la plupart des gens de confession.
Mais vous avez raison, et c'est pour ça que, voilà. que faisant le même choix que vous, ben j'en parle pour les mêmes raisons. Merci Nathalie. Marie est là. Merci. Bonjour Marie, qui est commerciale. Alors c'est bien parce qu'on a que des femmes aujourd'hui. Parfois on a que des hommes et parfois on a que des femmes et je ne sais pas pourquoi. Bonjour
c'est
Marie.
C'est sympa pour Théo qui parlait tout à l'heure.
Oui, alors il y avait une majorité, disons, de femmes. Marie, bonjour.
Bonjour Pascal. Ben, je vais mettre une pièce aussi.
Oui.
Dans la machine. Moi j'avoue, quand j'ai entendu cette info, j'ai été outrée. J'ai mis quelques minutes à me remettre. J'ai mis à partir de quand, je vais reprendre un petit peu hein, ce qu'ont dit les auditrices précédentes, à partir de quand on remet en cause un fait scientifique par une croyance religieuse? À partir de quand on doit effectivement se soumettre à ça? En fait, je trouve ça même, comme vous le disiez, dommage qu'Evian se soit senti obligé de faire ses excuses. Je trouve que c'est leur donner du crédit. D'accord. Il est fort probable que ce soit des minorités religieuses qui aient créé ce bad buzz, comme vous l'avez évoqué. Et moi, ce qui m'intéresserait, c'est de voir là, dans les heures, dans les jours qui viennent, est-ce que les autorités religieuses de ces personnes, puisqu'elles ont des autorités religieuses qui sont relativement présentes et qui communiquent, etc., est-ce qu'elles vont faire un démenti? Est-ce qu'elles, pas un démenti, mais est-ce qu'elles vont dire c'est aller trop loin, effectivement, qu'il faut boire de l'eau. Et après, chacun pratique sa religion chez lui, comme il l'entend. J'ai été élevée hein, dans la religion catholique, même si je m'en suis écartée, mais à aucun moment, elle ne doit prendre le pas sur la vie publique de tous les jours. À ce moment-là, ne faisons plus de pub pour dire que le tabac est mauvais pour la santé, parce que, attention, les fumeurs vont se réveiller. Non, mais vous, si vous avez envie de fumer, vous dites, nous laissez tranquille, vous enlevez vos publicités.
Vous avez parfaitement...
Le ramadan, je le respecte, mais qui laisse les gens communiquer sur un fait qui est scientifique, c'est biologique.
Non, et puis on peut aussi rappeler que Evian ne demandait pas de ne pas boire ou de boire durant la journée, plus exactement. Je rappelle que les musulmans boivent également pendant le ramadan. Ils boivent...
Aux heures qu'ils ont choisi. C'est leur choix.
Voilà. Ils boivent du coucher au lever du jour.
On est d'accord.
Donc ils boivent, évidemment. Donc Evian ne demandait pas de ne boire qu'au milieu de la journée. Vous voyez ? Je ne sais pas si
moi,
vous me suivez, si je suis assez clair.
Je suis d'accord avec vous en plus. Mais en fait, je trouve qu'Evian a fait une erreur en répondant.
D'accord, je suis bien d'accord, Marie. D'accord.
Ils sont, j'allais dire, flagellés.
Et c'est ça qui nous intéresse, parce que c'est révélateur de l'époque. Parce que eux, ils ne pensent pas qu'ils ont fait une erreur. Et je pense qu'ils même revendiqueraient cette position. C'est l'époque. Et ça, c'est intéressant.
Je fais un parallèle, tiré par les cheveux, qui va être l'histoire de la viande halal, à l'école ou pas, des repas végétariens ou pas, de proposer une alternative au jambon et tout ce qui est issu de la viande de porc dans les cantines. C'est-à-dire qu'à nouveau, la religion s'insère dans la vie publique, dans la vie collective. Je ne suis pas en train de dire que je suis pour ou je suis contre, mais pour moi, c'est le même débat. C'est-à-dire qu'à partir de quand nos choix religieux, nos convictions religieuses doivent sortir de chez nous, sortir de notre foyer et impliquer les autres.
Bon ben merci. Merci en tout cas Marie de ce témoignage et on va poursuivre parce que vous êtes très nombreux à appeler sur quelque chose qui est à la fois anecdotique, disons-le, mais qui fait réagir.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL
avec Pascal Pro.
Pascal Pro,
les auditeurs ont la parole sur RTL.
Laurent Tessier.
Et nous vous attendons sur d'autres sujets au 32-10. Dans 100 jours, c'est le début des Jeux Olympiques à Tokyo. Faut-il deux athlètes, une femme, un homme, pour porter le drapeau français lors de la cérémonie d'ouverture? Ce sera une première. Qu'en pensez-vous? 32-10. Paris est magique. Les Parisiens ont tenu jusqu'au bout et se sont qualifiés pour les demi-finales de la Ligue des Champions. Une qualification malgré la défaite 1-0 hier soir contre le Bayern Munich. Supporters parisiens, avez-vous stressé jusqu'à la dernière seconde? Cette année, c'est la bonne. 32-10. Et les politiques sont en très grande forme en ce moment. Le ministre de l'économie Bruno Le Maire sur la candidature de Xavier Bertrand à la présidentielle ce matin sur BFM.
Xavier Bertrand ferait un excellent ministre de l'économie et des finances d'Emmanuel Macron quand Emmanuel Macron aura été réélu président de la République.
Hey, la blague du jour. Et puis...
à la boulette. Ah oui, j'ai fait la boulette.
L'élu du Rassemblement National, Julien Odoul, a tenu sur LCI des propos sexistes à Florence Portelli, l'élu républicain. Tendez bien l'oreille.
Non, parce qu'il n'a pas compris. Je suis en train de dire justement qu'il faut plus de... Je suis pas blond, moi. Waouh.
Ouais, non, là, franchement, c'est vrai que...
Comme Marine Le Pen.
On monte pas le niveau, pardon, mais...
Comme Marine Le Pen, alors.
Allez-y, continuez.
Allez-y, c'est grave, Florence, c'est grave. Non, bravo, sexisme. Non, non. Donc, je suis blonde, je suis bête, c'est bravo.
Oui, c'est
la
vrai,
grande
c'est bon.
Classe.
Je ne suis pas blonde, moi. Tout va bien dans le monde moderne, Pascal.
C'est drôle, parce qu'effectivement... ça fait réagir. Elle a très bien réagi. En tout cas, elle a réagi comme il fallait dans le monde d'aujourd'hui parce qu'elle a vu qu'il avait fait une erreur et elle est vive, Florence Portelli. Donc, elle a réagi immédiatement. Arnould est là. Bonjour, Arnould. Vous habitez Strasbourg et nous sommes donc sur l'affaire Evian. Et je rappelle cette affaire que je trouve absolument incroyable. La marque Evian publie donc un tweet hier, qui évoque le fait de boire au moins un litre d'eau par jour. C'est un message classique qui rappelle les rudiments d'une bonne hygiène de vie. Là-dessus, bad buzz, puisque hier c'était le début du Ramadan. Donc des musulmans se sentent offensés, en tout cas des minorités actives sur les réseaux sociaux, parce que je disais tout à l'heure que je ne crois pas une seconde que c'est choqué les musulmans français. Mais certains s'amusent ou feignent d'être choqués. Et Evian a présenté ses excuses quelques heures plus tard. Nous sommes avec Arnould.
Bonjour Pascal. Alors je suis désolé, je vais pour la première fois à l'antenne être vulgaire, mais la religion me fait chier.
Ah oui, ça c'est direct.
Voilà, c'est direct. Sincèrement, la religion doit rester dans la sphère privée, pas dans la sphère publique. Je trouve ça insupportable que l'on tienne de ce type de propos. Alors, je suis consommateur de Evian, je n'achèterai plus d'Evian, parce que je trouve ça lamentable que Evian se soit excusé.
À ce point-là?
Ah oui, oui, non, mais c'est franchement scandaleux. À un moment donné, je veux dire, faire de la publicité pour l'eau et d'entendre des gens sur des aspects religieux s'offusquer parce que c'est le début du Ramadan, je trouve ça, moi, ça me rend fou. Très sincèrement, ça me rend fou. Alors, bientôt, on va plus pouvoir faire de publicité alcool dans les journaux parce que c'est le Ramadan. Ça devient...
Non, mais c'est le problème des minorités actuelles. C'est ça, notre piège. C'est ça qui n'existait pas il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans. C'est-à-dire que Twitter est devenu, comment dire, un organe, l'organe du diable. C'est le diable. Voilà.
Et ça devient c'est insupportable. Mais je suis d'accord que c'est une minorité. Mais c'est insupportable. Et que les gens se rendent bien compte que, malheureusement, si la société à un moment donné se radicalise, c'est parce que des minorités tiennent de ce type de propos et que ça devient insupportable. Et malheureusement,
oui, mais qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait?
Eh bien, je pense que...
On n'en parle pas
quelque chose. Non, non.
On n'en parle pas, parce que c'est possible, on peut ne pas en parler. Moi, d'ailleurs, ce serait... Moi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, si tous les gens en France, hommes politiques, journalistes, artistes, tous les gens, en fait, qui ont une représentation sociale, économique, politique, tout ce que vous voulez, se désabonnaient dans la même journée de Twitter, tous...
On est d'accord.
Ça tue Twitter. Et on n'y va plus.
Je suis d'accord.
Mais il faut que tout le monde le fasse, autrement ça n'a pas de sens. Tout le monde se désabonne. Immédiatement.
C'est une très bonne solution.
Ah oui, mais c'est pas facile. Elle est théorique, ma solution.
Bien sûr.
Elle est théorique.
C'est la seule bonne solution qui est peut-être utopiste. Mais oui, parce que dans les réseaux sociaux, on entend tout et n'importe quoi. Et ça devient insupportable.
Non mais là, c'est un cas d'école. Je vous le répète, les musulmans de France ne pensent pas comme ceux qui ont pris la parole en leur nom.
Mais on est d'accord.
Mais je ne peux pas vous le prouver, ça. J'ai aucune étude. Je ne peux pas vous le prouver.
Non, mais
c'est le sentiment que je peux avoir.
bien sûr.
Bah oui, Arnoul. Mais c'est pas le problème de la religion, si vous me permettez, hein.
En tout cas, ça quand même, ça découle d'une minorité, encore une fois, d'une extrême minorité religieuse qui font un combat religieux de tous nos faits de société ou toutes nos coutumes de société. Et c'est insupportable.
Bah merci en tout cas, Arnoul. Il est 13h36. J'ai pas encore salué Greg Carnoni et je le regrette. Bonjour Greg Carnoni.
Bonjour à tous.
Vous nous avez pas mis une petite chanson pour saluer la victoire du Paris Saint-Germain, par exemple, hier, qu'on a accompagné en musique.
Ah, c'est vrai, quel dommage.
Vous n'avez pas écouté hier soir Philippe Sanfourche avec Christian Olivier et Xavier Domergue ?
Et Giovanni Castaldi également.
C'était formidable de les écouter. Formidable, c'est mieux encore qu'à la télévision, je trouve.
C'est vrai.
Le suspense, Philippe Sanfourche, il était au bord de l'apoplexie. Mais oui, il y avait deux poteaux de Neymar. J'ai tout écouté. À tout de suite.
Jusqu'à 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Pascal Pro.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Nous sommes donc toujours sur le sujet Evian et nous sommes avec Nadine. Bonjour Nadine.
Oui, bonjour Pascal. Comment allez-vous? Écoutez, avec le beau soleil.
Ben écoutez, un peu frisqué. Mais le soleil est agréable.
Sûr.
Oui. Il faisait froid ce matin dans Paris. Hein.
Oui.
C'est 5,
bah, 6
degrés.
On y est aussi, hein, je suis confiant.
Ah oui, bah, à la campagne, il fait encore plus froid.
Tout à fait. Oui, alors en fait, moi j'ai appelé parce que ça m'a fait bondir hein, quand j'ai entendu qu'Evian s'excusait pour avoir dit qu'il fallait boire 1,5 litre d'eau par jour, alors que ça, qu'on le dit depuis des lustres. Hein, je rejoins tout ce que les précédents auditeurs ont pu dire. Et que c'était absolument pas visé par rapport au Ramadan. Et moi, j'en ai ras-le-bol de toutes ces minorités qui se sentent agressées, stigmatisées, et que nous, la France, on se met à genoux. Mais encore, pendant combien de temps on va accepter tout ça? Moi, je suis atterrée. Moi, je veux dire, je reconnais plus la société dans laquelle on vit. Je sais pas, il se passe plein de choses. C'est pas bien, je trouve pas bien, et ça me fait peur pour l'avenir, pour les petits-enfants, tout ça.
Non, mais il y a un sentiment nouveau, c'est effectivement que on ne peut plus, ou trop de gens se sentent offensés, c'est notamment ce qu'on appelle l'esprit woke qui arrive des États-Unis. Donc, au nom de « je ne veux pas être offensé », il n'y a plus de possibilité de dire ou de faire ou de moquer certaines choses, voilà.
Ah, on ne peut plus rien dire. De toute façon, dans le pays, le moindre mot est interprété.
Oui.
C'est,
il y a certaines choses qu'on ne peut plus dire, en tout cas, mais parfois, c'est une bonne chose. Il y a des choses, effectivement, qu'on disait sur les femmes il y a 30 ans, sur les noirs il y a 30 ans, c'est plutôt bien qu'on ne puisse pas dire. Mais ce qui est dommage, c'est quand on prend le second degré pour du premier.
Ouais, mais voilà, et là, je me dis, mais jusqu'où on va aller? En fait, on ne va plus rien oser dire, on ne va plus rien oser faire, parce qu'il y a certains groupes qui analysent tout, et pour se mettre en disant « Ah là là, mais on est offensé, mais vous voyez ce que je veux dire ? Est-ce que nous, et moi je me dis que c'est qu'à cause de tout ça, un jour, Marine Le Pen sera au pouvoir, parce que les gens vont en avoir ras-le-bol. Oui, c'est ça qu'il faut prendre conscience. Voilà. Et un jour, ça arrivera. Et moi, ce que j'aimerais, et pourquoi il n'y a pas la réciprocité? Quand je vois ou quand j'entends certaines choses, moi aussi, je me sens offensée contre mon pays, contre la religion, contre ce. Nous aussi, on s'en prend plein la figure, mais personne réagit.
Bah, qu'est-ce que vous appelez que par exemple, vous en prenez plein la figure sur quel sujet
Sur notre religion aussi. Sur la religion, moi, je suis, de toute façon, je suis athée. Hein, donc, voilà, c'est vite. Mais je veux dire, contre les
vous
catholiques.
Athée, Dieu merci.
Oui, on pourrait dire ça. J'ai tellement été élevée là-dedans que c'est terminé. Je ne veux plus du tout en entendre parler. Mais je veux dire, regardez ce qui s'est passé encore. Oui. Voilà, on s'en prend aux catholiques. Moi, j'aimerais savoir si dans les... Excusez-moi, alors je vais peut-être choquer certaines personnes, mais est-ce... là, c'était Pâques il y a 3 semaines. Est-ce que si j'habitais au Maroc, en Tunisie, en Algérie, dans les pays arabes, j'aurais trouvé le chocolat de Pâques? Est-ce que moi, on m'aurait dit, pour les catholiques ou pour les bonnes Pâques, joyeuses Pâques? Je pense pas, hein.
Oui, mais c'est plutôt une bonne chose. C'est plutôt une bonne chose, par exemple, que les musulmans français, on leur souhaite un bon ramadan. C'est plutôt une bonne chose.
Oui, moi, je
trouve que c'est plutôt intéressant, intelligent. Effectivement, il y a une nouvelle religion en France qui n'était pas aussi présente et qui n'était pas même de la même manière présente il y a 50 ans. Il se trouve qu'aujourd'hui, je ne sais pas si c'est 6, 7, 8 millions de musulmans qui sont aujourd'hui en France. C'est la deuxième religion du pays.
D'accord. Alors moi, si vous voulez, alors ça veut donc dire que vous avez des groupes qui manipulent la religion musulmane.
Ah ben là, en l'espèce,
voilà.
Oui.
Et pourquoi
ça, en l'espèce,
et
ça, oui.
Tout à fait. Et pourquoi, moi alors là, par contre, la question que je me pose, pourquoi, et c'est pour eux, hein, mais pourquoi ils ne descendent pas dans la rue en disant...
Ils ne vont pas descendre dans la rue parce que, évidemment, vous voyez, c'est compliqué.
Oui, mais voilà, mais voilà. Et ça veut dire que...
Ils vont pas descendre dans la rue.
On
n'en
finira
ça.
Jamais. Ben, non, mais je veux dire à tous les musulmans de France, disant, nous, notre religion, voilà, c'est notre religion, comme vous êtes catholiques, protestants, etc., etc. On respecte vos religions, on vous demande de respecter la nôtre, mais tous ceux qui font, parce que c'est une utilisation, ils, vous voyez ce que je veux dire? Et à cause de ça, on peut se retrouver,
Ah, merci Nadine. Voilà. Il nous reste deux auditeurs sur ce sujet. Peut-être Thierry, qui habite dans les Yvelines. Alors, on n'a pas eu un seul auditeur qui s'est senti offensé par cette publicité Evian. C'est fascinant d'ailleurs. Pas un. C'est là qu'Evian est à côté de la plaque. C'est ça qui est incroyable d'ailleurs. Personne en fait n'est offensé. C'est ça la réalité. Mais certains ont joué, ont faim de l'être. Thierry, bonjour.
Oui, bonjour Pascal, bonjour aux auditeurs. Moi j'appelais parce que je pense que le message d'excuse d'Evian n'est pas adressé aux musulmans de France ni au marché français. Mais Evian, faisant partie du groupe Danone, vend énormément à l'étranger et énormément dans les pays islamistes. Et c'est là où actuellement ils ont déjà beaucoup de mal à se relever du dernier boycott, qu'ils ont eu peut-être peur et qu'ils se sont excusés. Mais c'est en aucun cas vis-à-vis des musulmans français ou du marché français qu'ils se sont excusés. C'est beaucoup plus, à mon avis, pour les marchés étrangers que pour le marché français.
Ben vous avez raison, sans doute. C'est intelligent de le dire, Thierry. On ne l'avait pas dit depuis le départ de l'émission et c'est une possibilité. Vous avez parfaitement raison.
Parce que je pense qu'effectivement, le marché d'Arabie Saoudite et de tous ces pays-là est énorme pour Evian, est énorme pour Danone. Et ils ont pris beaucoup ces derniers temps avec le dernier boycott sur les dessins. Et effectivement, là, je pense qu'ils n'avaient pas besoin de ça. Donc, ils se sont excusés très rapidement sans penser qu'en France, on pourrait aussi mal réagir.
Eh bien, écoutez, merci vraiment.
Je vais me boucher, t'inquiète pas.
Merci beaucoup. Majid sera le dernier. Il sera le dernier témoin. Et je vous lis un petit tweet d'Alain Jakubowicz que vous connaissez, qui est l'avocat célèbre. Qui intervient d'ailleurs parfois sur RTL. Je propose que toutes les publicités de marques alimentaires soient suspendues le jour du grand pardon et bien sûr que la promotion de la viande soit interdite le vendredi saint, et écrit-il avec un peu d'humour. Majid, bonjour.
Oui, bonjour Pascal, bonjour
et merci
à tous.
D'être avec nous. Vous êtes étudiant et vous êtes musulman peut-être ?
Oui, oui, oui. Bon,
est-ce que vous avez été offensé par cette publicité d'Evian ?
Bah, vous vous doutez bien que pas une seconde. j'ai pas été offensé une seconde et qui plus est, j'ose espérer que la majorité des musulmans n'ont pas été offensés par ce tweet qui était clairement pas une attaque, quoi.
Bien évidemment.
Pas une provocation.
Mais bien évidemment. Alors, comment vous expliquez cela? Comment vous expliquez que certains ont faim d'être offensés?
Alors, je suis allé voir les tweets, ouais, il y en a qui ont faim d'être, et peut-être qu'il y en a qui se sentent vraiment, il y a une parano, hein, peut-être qu'il y en a qui se sentent vraiment offensés. Après, il y a eu aussi beaucoup de tweets humoristiques, etc. Mais ce qui est effarant, c'est le fait qu'Evian s'excuse, quoi. Et je pense que, aussi, vous l'avez dit tout à l'heure, il y a une espèce de, on a chaque communauté, chaque minorité qui essaye de, mais je pense pas que ce soit le fait des minorités elles-mêmes. Je pense que c'est le fait de groupes, de lobbies, d'associations, mais pas de l'entièreté des minorités elles-mêmes. Et je pense que le fait de médiatiser ce genre, enfin, en même temps, je suis là pour en parler avec vous, mais le fait de médiatiser ce genre de réaction, de ce genre de revendication, ce genre de, eh ben, je pense que c'est ça aussi qui participe au climat. Je pense qu'on devrait collectivement les ignorer, en fait, tout simplement.
Ben, vous avez raison. En théorie, vous avez raison, Majid. On ne le fait pas, mais vous avez parfaitement raison. Ce serait la seule solution. D'ailleurs, vous êtes le dernier auditeur. Je dis ça une fois que j'ai terminé la séquence qui a duré 30 minutes. Et j'ai dit, je n'en parlerai plus. Mais bon, je viens d'en parler quand même pendant 30 minutes. Vous avez parfaitement raison, Majid. Parfaitement raison. Ben, merci. Merci beaucoup. Donc, derrière ce mot, par définition, c'est le silence. Greg Caranoni, vous avez envie de boire un petit verre d'eau ?
Du coup, vous avez dit que c'était le silence, moi je ne parle plus. Hein.
Le silence de la mer.
Ah, d'accord.
À tout de suite.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Pascal Pro.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Alors, vous connaissez peut-être la trouvaille du comité olympique français, puisque désormais, il y aura deux porte-drapeaux pour la cérémonie d'ouverture. C'est donc une nouveauté. C'est dans 100 jours, hein, les Jeux olympiques. Et l'équipe de France olympique à Tokyo aura deux capitaines. Et pour Denis Masseglia, qui est le président du comité national olympique et sportif français, c'est très symbolique. Et en même temps, ça correspond à une démonstration de l'égale importance dans le contexte épouvantable olympique et dans le contexte sportif de manière générale. Alors, nous allons être peut-être tout d'abord avec Sarah. Bonjour Sarah.
Bonjour Pascal.
Et merci d'être avec nous. Quel est votre sentiment ?
Mon sentiment est un peu double, je dirais. Le premier, je ne vois pas trop l'intérêt de mettre deux porte-drapeaux, un homme et une femme, si j'ai bien compris. Sachant qu'on a déjà eu des porte-drapeaux femmes et des porte-drapeaux hommes, que derrière chaque porte-drapeau, il y a toutes les équipes de tous les sports représentés, hommes et femmes, qui marchent derrière eux. Donc, je ne suis pas certaine qu'il y ait forcément un appui, enfin, une espèce d'image de parité. À côté de cela, peut-être que mettre une personne, même s'il y a des JO handisport qui ne sont pas très regardés, peut-être mettre un porte-drapeau qui fait partie du sport handisport, peut-être, ça aurait peut-être une portée autre. Donc ça, c'est un premier sentiment. Maintenant, à côté de cela, si on regarde les derniers chiffres de l'ONU concernant, l'ONU a sorti une liste de 57 pays. Où les femmes n'ont pas le droit de disposer, entre guillemets, de leur corps. Hein. Sur ces 57 pays, il y a 20 pays qui donnent la possibilité aux violeurs d'épouser, pour qu'il n'y ait pas de poursuite, d'épouser leurs victimes. Ces pays-là peuvent peut-être à un moment donné être pointés dans des cérémonies comme les Jeux Olympiques. Là, je pense que ça aurait une plus grande portée que de mettre deux porte-drapeaux homme-femme, histoire de dire il y a un homme et une femme qui représentent le pays. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Pascal. Ces deux points de vue,
moi,
je ne sais pas sous quelle forme on pourrait le... Vous voyez ?
Je vais vous dire, jusqu'à ces temps nouveaux, le porte-parole des Jeux Olympiques, c'était l'athlète qui représentait, symbolisait, incarnait le mieux le sport français du moment. Donc, qu'il soit un homme ou une femme, ça n'avait, à mes yeux, pas d'importance. Marie-Josée Pérec, Laura Flessel ont figuré cette excellence. Parce que porter le drapeau dans le stade olympique, marcher devant ses camarades de toutes les disciplines, c'est une légion d'honneur. C'est une marque de reconnaissance. Mais ce que je remarque là, c'est qu'au nom de l'idéologie, au nom de l'humeur du moment, au nom de l'égalité homme-femme sans doute, on biffe cette tradition. Cette tradition, il y aura donc deux porte-drapeaux. Après, c'est l'époque, moi je vous laisse juge. J'aimais bien l'idée d'excellence, de n'en choisir qu'un ou qu'une. Parce que si je prolonge, alors pour le Goncourt, on fait pareil, on fait un homme et une femme. Pour la présidence des Césars, par exemple, on fait la même chose. Pour le Nobel aussi, à chaque fois, on est deux. C'est ça qui m'ennuie un peu, mais bon, après...
Si je peux juste appuyer ce que vous êtes en train de dire. Autre chose que je sache, dans les disciplines des Jeux Olympiques, il y a des sports, il y a des disciplines pour hommes et pour femmes. Dans ce cas-là, on n'a qu'à mélanger les hommes et les femmes, faire le 110 mètres air, on verra bien qui gagne. à un moment donné.
Mais alors ça, c'est encore autre chose. Mais on peut être une femme et incarner, par exemple, Marie-Jo Pérec en 1996, elle est porte-drapeau à Atlanta. C'est elle, on considère que c'est elle qui incarne le mieux l'olympisme français. Voilà.
Mais exactement. Mais
et j'aimais bien cette idée.
Je suis entièrement d'accord.
Comme Laura Flessel l'avait fait à Londres en 2012.
La guêpe, exactement, exactement. Entièrement d'accord avec vous. Patrick.
Alors, ce qui est vrai, c'est qu'il y a eu 24 Olympiades, il n'y a eu que 3 porte-drapeaux féminines. Christine Caron en 68, Marie-Jo Pérec en 96 et Laura Flessel en 2012. Ça veut dire qu'à 21 reprises, ça a quand même été un garçon. Bertrand est là. Bonjour Bertrand, vous êtes directeur du club gym. J'ai l'impression que vous ne pensez pas exactement comme moi. Ce qui est une bonne chose pour vous. Je vous en félicite.
Mais bon, c'est pas des choses vraiment graves, donc la polémique, elle va être soft, hein, vous croyez pas?
Mais c'est intéressant parce que c'est toujours pareil, c'est des thèmes de société d'aujourd'hui.
Bah écoutez, moi j'ai toujours, comme pour les clubs de gym avec le mas sportif, j'ai toujours, mon premier réflexe, c'est toujours de me mettre à la place des athlètes et à la place des coachs. Et moi je pense que c'est vachement sympa, parce que au lieu d'avoir un seul athlète qui va être heureux, vous le disiez il y a un instant là, que c'est un honneur, que c'est une marque de reconnaissance, bah vous voyez, là maintenant on va faire plaisir à deux personnes au lieu d'une. Et je trouve ça super sympa. Et puis, bon, c'est pas une grosse organisation. Il n'y en a pas pour 10 ans non plus. C'est juste un défilé avec deux personnes. Donc moi, je trouve plutôt ça sympa. Et je pense, pour tout vous dire et pour enfoncer un peu le clou, je pense qu'ils auraient mieux fait de le faire bien avant, quoi. Moi, c'est mon opinion. Et pas pour une revendication quelconque, etc. Je trouve que c'est normal, voilà. Et puis c'est sympa, ça fait plaisir à deux personnes au lieu d'une.
Bah, écoutez, votre argument est imparable, Bertrand. Imparable. Donc, je ne peux que souscrire à ce que vous dites. Ce que vous dites est vrai. On peut, en revanche, ne penser différemment. Mais ce que vous dites est vrai. Ça va être très sympa et vous allez faire plaisir à deux personnes au lieu d'une. Toute la délégation pouvait aussi porter le drapeau. Comme ça, tout le monde était encore plus content. Bertrand.
Non, là, Pascal, c'est pas le moment de faire des dépenses inconsidérées, vous voyez.
Ben là, donc, chacun avait son drapeau et tout le monde portait le drapeau, hein, tous à égalité pour le porte-drapeau.
On va faire un peu d'économie de drapeau pour le moment, mais j'ai une question à vous poser. Par contre, c'est général cette mesure ou c'est,
Non, pour le moment, elle n'est pas générale, elle est française manifestement. Et c'est ça qui m'a. Elle est très bonne, votre question, parce que je n'ai pas réussi à avoir la réponse, mais a priori, ce n'est que français. Étonnant, donc on va être les seuls.
Moi, je trouve ça super sympa et ça me fait vraiment plaisir pour les athlètes.
Eh bien, écoutez, bravo, effectivement, Bertrand, pour votre intervention. Jean-Pierre est là également. Bonjour, Jean-Pierre.
Oui, bonjour, monsieur Pascal Pro. Mais écoutez, je vais peut-être encore remettre, de l'huile sur le feu, là. Mais moi, je ne suis pas content du tout dans cette histoire, parce qu'un homme, une femme, je trouve que c'est quand même incomplet. On devrait rallonger la hampe du drapeau, parce qu'on devrait mettre également, comme on est dans une société tellement multi-ci, multi-ça, culturelle et tout ce qu'on veut. D'ailleurs, le précédent sujet que vous avez abordé sur l'eau en était un exemple. Moi, je pense qu'il faudrait qu'on porte le drapeau, il faudrait qu'il y ait un homme, une femme, un noir, un asiatique, un maghrébin. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, parce qu'on est dans une société tellement multiple, même un homosexuel et puis une lesbienne. Voyez-vous, parce qu'en fait, on est une société tellement multi, que tout le monde voudra, va trouver à redire, quoi. Et moi, on va dire, regardez, même sur les sportifs, on a beaucoup d'athlètes antillais.
Sauf si vous me permettez que un noir ou un homosexuel, comme vous dites, on peut considérer que c'est une minorité, ou en tout cas c'est vécu comme tel. Une femme, c'est pas une minorité, me semble-t-il.
Ah non, mais alors on pourrait faire une synthèse, oui. Parce qu'en définitive, on pourrait mettre par exemple une femme, disons d'origine antillaise ou africaine, qui soit de religion musulmane. Comme ça, on aurait trois en un, quoi, je dirais.
Je sens que vous allez déraper. Donc Jean-Pierre, je sens qu'on est sur un terrain glissant. Donc on va marquer une pause. On va marquer une pause. Vous reviendrez, je vous promets, après 14h. Vous savez, si on ne censure pas. Mais je sens que vous êtes sur un terrain glissant, cher Jean-Pierre. À tout de suite.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
14h. Et le flash avec Sébastien Rouxel.
Nous avons encore devant nous des jours difficiles. Déclaration à l'instant de Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement à l'issue du Conseil des ministres. La situation sanitaire reste contrastée sur le territoire. Les mesures mises en place par l'exécutif fonctionnent, selon lui, mais la troisième vague n'est pas encore derrière nous. 50 millions de doses en plus. Pfizer-BioNTech augmente ses livraisons vers l'Union européenne au deuxième trimestre, annonce de la Commission européenne, alors que l'Agence du médicament doit rendre aujourd'hui son avis sur un autre vaccin, celui de Johnson & Johnson, suspendu hier aux États-Unis et en Afrique du Sud après quelques cas de thrombose. Plus de vols entre Téhéran et Paris. L'Iran suspend ses liaisons en raison de la situation sanitaire dans l'Hexagone. Pour éviter une propagation du variant brésilien, le gouvernement français lui a interrompu jusqu'à lundi au moins les vols avec le Brésil. Les deux derniers en provenance de Rio et Sao Paulo ont atterri ce matin à Roissy. 24 heures après son enlèvement dans les Vosges, la petite Mia reste introuvable. Les enquêteurs soupçonnent la mère d'avoir commandité ce rapt. La garde de l'enfant lui avait été retirée en janvier dernier. La fillette de 8 ans avait été placée chez sa grand-mère après avoir été exposée à la violence de sa mère envers son conjoint notamment. Dortmund ou Manchester City, on connaîtra ce soir l'adversaire du Paris Saint-Germain en demi-finale de la Ligue des Champions. C'est du football évidemment. Coup d'envoi à 21h. La météo demain, une journée encore bien ensoleillée sur une grande partie du pays. Petit bémol tout de même au nord de la Loire avec un ciel partagé entre nuages et éclaircies. Même chose sur le sud des Alpes et la Corse où il pourrait y avoir quelques ondées. Côté température, ça reste frais avec encore des gelées en matinée. Dans l'après-midi, on aura 9 à 12 degrés dans le nord, 14 à 18 dans la moitié sud. La course du Quintet, c'était à Lyon, la soie, ça vient de se terminer, je vous donne l'arrivée provisoire, le 7, le 15, le 6, le 9 et le 8.
Jusqu'à 14h30, les auditeurs ont la parole sur RTL avec Pascal Pro.
Merci Sébastien Rouxel. Faut-il deux porte-drapeaux par pays pour la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques? C'est la nouveauté cette année, en tout cas pour la France. Une femme et un homme. Est-ce que vous êtes satisfait de cette mesure évidemment symbolique? Nous étions avec Jean-Pierre à l'instant qui trouvait que ce n'était pas forcément une bonne idée. On va conclure avec vous.
D'accord, mais écoutez, non, c'est, effectivement, c'est pas une bonne idée. Ça m'aurait pas du tout dérangé, comme d'ailleurs tout le monde, toute la population, ça n'aurait pas du tout dérangé que ce soit une femme qui porte le drapeau au lieu d'un
j'espère.
Homme.
J'espère voilà. Que ça vous dérangerait pas.
Comment ?
J'espère que ça ne vous aurait pas dérangé.
Non, mais je veux dire, parce que par rapport à ce que j'ai dit, c'est simplement un petit coup pour égratigner cette fameuse société qu'on nous a tant vantée depuis tant d'années. Ce multiculturalisme était soi-disant une richesse pour notre pays.
Non, mais là, ça n'a rien à voir. Je veux dire, quel est le rapport du multiculturalisme avec le porte-drapeau, un homme, une femme ?
Globalité, monsieur Pro, vous le savez très bien.
Comment ?
Ça fait partie d'une globalité, tout ça.
C'est-à-dire ? Mais quel est le rapport entre un homme, une femme, porte-drapeau et le multiculturalisme ?
Mais parce qu'en fait, comme je vous le disais, il y a d'autres personnes qui vont peut-être revendiquer en disant pourquoi qu'un homme et une femme, pourquoi pas aussi, comme je vous le disais, un grand drapeau avec toute cette représentation, disons, de notre société. Voilà, tout simplement.
Je feins de ne pas comprendre ce que vous voulez dire, mais bon.
Ça fait rien, je pense que d'autres comprendront, monsieur Pau, c'est pas un problème.
C'est pour ça que je dis je feins, je vois sur le terrain sur lequel vous voulez nous amener.
Pas du tout, non, je veux amener personne sur le terrain, nous y sommes déjà sur le terrain, alors c'est pas grave.
Bon, bah écoutez, ça a l'air de vous mettre un petit peu en colère, Jean-Pierre.
Pas du tout, non.
Vous êtes dans le Jura, c'est ça, hein ?
Voilà, c'est ça.
Bon, bah, et vous intéressez aux Jeux Olympiques ?
Oui.
Et quel est l'athlète qui, selon vous, devrait porter le drapeau cette année ?
Ah, bah écoutez, je m'intéresse aux Jeux Olympiques, mais je connais beaucoup moins les sportifs d'une manière nominative, en réalité.
D'accord.
Donc je ne pourrais pas vous répondre à ce sujet, je regarde ça un petit peu en amateur, dirais-je, voilà.
Eh bah écoutez, c'est parfait, c'est bien de regarder en amateur le sport également. Ça, comme vous dites, ça détend. Et puis espérons que ces Jeux Olympiques de Tokyo, d'abord espérons qu'ils auront lieu, parce qu'il y a quand même toujours un peu une incertitude. A priori, ils auront lieu, mais voilà. sans beaucoup de spectateurs, voire sans spectateurs du tout. Mais espérons que ce sera un beau moment. Il est 14h04.
Jusqu'à 14h30. Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Alors j'ai appris, d'ailleurs on pourrait l'appeler, c'est Florian Gazan qui a écrit les paroles de l'hymne du PSG. Vous le saviez, monsieur Greg ?
Ah, pas du tout. Alors là, c'est les Pet Shop Boys, donc ça m'étonnerait que ce soit Florian Gazan, ce Go West.
Bah,
de
oui,
quel hymne parlez-vous ?
Écoutez, j'ai appris ça, donc on va l'appeler Florian, parce qu'on va vérifier cette information qu'il nous a dite. Alors c'est peut-être la version française Ça, c'est la version anglaise que vous avez.
Absolument.
Manifestement. Mais sur cette musique-là, il y a une version française. Eh bien, celui qui a écrit les paroles, c'est Florian Gazan. Tiens, on l'appelle, si vous voulez bien. Patrice est là. On parle du PSG, oui. Vous avez compris. C'était chaud hein, hier, c'était dur, c'était ouais. Stressé.
Oui, bonjour Pascal. Oui, c'était très très chaud. Paris a fait un bel exploit. Vraiment, vraiment à la hauteur de... Ouais, vraiment, vraiment, ça, c'est... Moi, c'est... j'étais pas surpris, mais je me doutais que ça allait être très très difficile. Mmh. Parce que c'est en face, il y avait une belle équipe. Paris a su faire face. Certes, le match aller était compliqué, match retour aussi, mais ils ont eu... le Bayern a eu de la chance, évidemment, avec les deux barres. Mais c'est... Ouais, c'est une belle équipe. Paris, c'est être présent aux grands événements. C'est ça qui est magnifique. C'est quand même une belle équipe. Bon, certes, il y a des grands joueurs, mais ils sont toujours présents aux grands événements. Sauf que le bémol, c'est championnat. Championnat, c'est... Il y a quelques petits soucis parce qu'ils n'arrivent pas à gérer tous les matchs. Certes, il y a eu les blessés, il y a le Covid, il y a tout plein de choses qui rentrent en compte, mais sur l'ensemble, belle équipe. Ouais, beau match, là, d'hier soir, c'était...
Vous l'avez regardé ?
Ouais, j'ai vu, ouais, c'était compliqué, mais c'était un beau match. Parce qu'il il y avait du
répondant. Et c'est mérité quoi. Pour vous ? C'est logique ?
Oui, c'est mérité, hein. Ça, c'est... Mais c'était dur. C'était dur, c'est ça qui font les grandes équipes, en fin de compte, qu'ils ont cette force, je pense qu'il y a une force mentale... dans les grands événements, ils savent être présents, quoi, psychologique et mental, et surtout technique. Bah, quoi, parce que là,
alors, ils ne l'ont pas toujours été, parce que planait effectivement la malédiction de Manchester United, de Barcelone, oui. Et de ça. Mais hier, effectivement, ce qui a changé, j'écoutais Philippe Sanfourche ce matin qui le disait, c'est que psychologiquement, les Parisiens ont été au rendez-vous, parce qu'ils sont menés 1-0 à la 43e minute, et ils vont tenir pendant une mi-temps complète.
Oui. Ouais, c'était, bon, c'était formidable.
Et vous préférez Dortmund ou vous préférez Manchester City pour la demi-finale ?
Dans les deux cas, honnêtement, les Allemands, parce que c'est vrai que les équipes allemandes sont difficiles à manipuler. Le Manchester City, ça va être compliqué. Je pense que ça va être très compliqué. Il vaut mieux prendre Dortmund.
D'accord.
Parce que les Anglais, ils ont un style de jeu qui est très particulier. Et... Ils ouvrent vraiment sur les ailes, ils savent bien poser, ils sont temporisés énormément, ils arrivent à vraiment avoir une ouverture de jeu superbe, et surtout leur jeu de tête, quoi, c'est magnifique, quoi. Quand on a, c'est vrai, ils ont vraiment des bons joueurs aussi, Manchester, et ça sera compliqué. Mais c'est ça aussi, je pense que ça sera un beau match. Si c'est Manchester, ça sera un beau match, et Dortmund aussi. Parce que Dortmund, ils ont aussi une belle équipe.
Ben merci beaucoup Patrice de ce témoignage. Il y a beaucoup de supporters du PSG qui nous appellent. J'espère également des supportrices, pour tout vous dire. On va laisser passer une pause et nous revenons.
Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL. Pascal Pro,
les auditeurs ont la parole sur RTL.
Le PSG, c'est vraiment dommage de se qualifier pour une demi-finale sans personne dans le Parc des Princes qui est... J'allais dire le plus beau stade du monde, mais c'est magnifique le Parc des Princes et il était vide hier soir. Nous allons être avec Jean-Paul, qui est coach de foot. Vous avez regardé le match, Jean-Paul ?
Non, bonjour. Malheureusement, je n'ai pas regardé le match. Parce
vous avez écouté sur RTL
j'ai écouté plus ou moins.
Sur RTL, ah, sur RTL. Vous avez écouté. Je sais oui, que j'étais sur RTL hier soir.
J'ai écouté sur RTL, on va dire comme ça. J'avais fait un pari avec Olivier du Standard et il m'avait promis de me rappeler. Je lui avais dit que Bayern se qualifierait. Je me suis trompé. Je pense que la chance, elle ne va pas, elle va tourner. La chance, elle est aux grandes équipes. Et pour moi, Paris, c'est pas une grande équipe. C'est une équipe de stars. Le Bayern, c'est une équipe. Et je pense que dans tout ça, on a tout dit. Alors, il y a une chose, et vous venez de le dire à l'instant, qui a favorisé les Parisiens, au match aller notamment, c'est le manque de public. Si à Munich, il y a le public, Paris ne gagne pas. Et ça, c'est catastrophique pour le football. Aujourd'hui, et là, on va étendre un petit peu le débat, si vous permettez, c'est ça, c'est ce qui est malheureux, c'est que
on ne peut plus aller applaudir nos équipes, on ne peut plus aller les supporter, et ça c'est extrêmement malheureux. Vous parliez du Parc des Princes vide, mais c'est malheureux, mais il n'y a pas que le Parc des Princes qui est vide. Le Stade Vélodrome, moi je suis marseillais au fond du cœur, et je peux vous dire que le Stade Vélodrome vide, c'est quelque chose de terrible. Lens, j'habite dans le Nord-Pas-de-Calais, j'habite dans le Pas-de-Calais, plus exactement à côté de Arras, et Lens, sans public, mais c'est mortel. Donc aujourd'hui, le Bayern n'est pas passé. Ils ont failli 1-0. Il y aurait eu un deuxième but, c'était mort pour Paris. Il n'y avait pas Lewandowski. Je pense que ça les a énormément handicapés. Je pense que de toute façon, Paris n'ira pas plus loin que les demi-finales. Et
contre Dortmund ou City, puisque c'est l'un ou l'autre, vous pensez que Paris sera éliminé?
Ah bah de toute façon, si je pense qu'ils vont tomber contre City. Je pense.
Pas sûr.
Je pense que City devrait. Et déjà, ils ont un super coach. Je crois que c'est le meilleur coach du monde, incontestablement, avec Zidane. Mais même Dortmund, hein, le football allemand. Alors c'est vrai qu'on dit toujours à la fin, c'est toujours les Allemands.
On rappelle
qui gagnent.
City a gagné 2-1 à l'aller. Hein, le match est ce soir. Match retour, il est à Dortmund et à l'aller, City a gagné 2-1.
Alors c'est vrai que Dortmund, ils ont un super jeune attaquant qui pour moi est la future grande star mondiale du football avec Mbappé, Haaland et je pense qu'effectivement c'est un gros atout pour Dortmund. Alors de toute façon, l'un et l'autre, je les vois pas passer plus loin. La chance, elle va tourner. Ils ont eu de la chance contre. Vous imaginez quand même qu'à chaque fois au match retour, quand c'est à Paris, ils gagnent pas. C'est malheureux de dire ça. Ils gagnent pas. Alors, il y a peut-être, je sais pas, il y a peut-être plus de pression, je sais pas, mais il y a quand même un truc qui va pas dans cette équipe. Il y a quand même un truc qui va pas.
Ben merci Jean-Paul encore de ce témoignage. Vous n'êtes pas très optimiste sur le PSG. On rappelle quand même que le PSG est en demi-finale de la Ligue des Champions et que l'année dernière il était en finale.
Oui, alors non, ne me parlez pas de l'année dernière, s'il vous plaît, Pascal. Non, l'année dernière, c'était pas la Ligue des Champions. Mmh. L'année dernière, on a colmaté les brèches, on va dire. Hein. Mais la Ligue des Champions, c'est son match aller-retour. Et puis, il faut dire qu'ils ont eu encore la chance.
Oui. Alors, chaque année, la chance, c'est un peu facile comme explication.
Ouais, mais enfin bon, vous avez bien compris, je suis pas parisien.
Mais oui, non, mais vous êtes marseillais, donc évidemment, c'est quand même dès le départ, c'est un petit peu faussé. À jamais les premiers, je rappelle Marseille en 93. Merci Jean-Paul.
Par contre, une dernière chose. Oh là là.
Oui.
Une dernière chose. Par contre, je suis français.
Oui.
Et bien évidemment, je souhaite bien sûr qu'ils aillent au bout. C'est évident. Voilà, ça sera le mot de la fin.
écoutez, c'est bien. La pause à tout de suite peut-être ou pas tout de suite la pause puisque nous avons beaucoup d'appels. Ah Babette. Moi j'aime bien quand une femme appelle et qu'elle est supportrice du Paris Saint-Germain. Est-ce qu'elle est déjà avec nous? Babette, elle est supportrice depuis 20 ans. Elle écoutait sur RTL le match hier et elle est en approche au Standard. Donc Jackie en attendant. Ah non Babette, elle est là.
Bonjour.
Elle est là, Babette.
Bonjour
Babette.
Bonjour Monsieur Pro.
Vous allez bien?
Mais écoutez, parfaitement bien et ravi que le PSG soit en demi-finale.
Bah oui, évidemment, il y a un petit chien derrière vous.
C'est mon petit chien, oui.
Bon, il est content le petit chien aussi.
Mais Jules, il regarde tous les matchs.
Non.
Surtout que nous sommes expatriés au Mexique et donc
là vous m'appelez du Mexique?
Non, là, je vous appelle de l'orgue parce que.
Ah oui, je me disais, ça passe bien.
COVID, mais j'ai regardé tous les matchs sur la télévision mexicaine.
Mais qu'est-ce que vous faites au Mexique?
Mais mon mari travaille. Voilà, on est expatrié. Voilà.
Et là, il ne travaille plus?
Il travaille avec son ordinateur.
Donc, il est où est-ce que vous m'avez dit que vous êtes?
Il fait du télétravail. À l'orgue, on est dans le Var.
L'orgue, d'accord.
Oui, dans le Var.
Bon, et hier soir, vous avez donc écouté RTL.
Alors, Alors, on écoutait RTL et on regardait M. Rio aussi sur la chaîne L'Équipe parce qu'il nous fait trop rire, quoi. Il était complètement excité hier.
C'est-à-dire qu'on ne regarde plus les matchs, on regarde maintenant, il y a le spectacle.
On fait les deux, voilà.
Mais moi, j'écoutais Philippe Sanfourche, Christian Olivier, Xavier Demergue,
oui,
et c'était...
Sûr, mais vous nous manquez d'ailleurs, je vais vous dire, vous nous manquez.
Bah oui, mais écoutez, c'est gentil, mais je parle moins de football en ce moment. Alors, racontez-nous, dites-moi ce que vous pensez de ce Paris Saint-Germain, Babette.
Alors moi, je suis fervente supportrice, bien sûr. Je regrette que j'ai beaucoup de joueurs que j'aimais beaucoup qui sont partis, comme Rabiot, Cavani, Matuidi, voilà tous ces gens-là. C'est fort dommage parce que c'était vraiment des joueurs fabuleux. Mais enfin, moi, je suis un peu, vous savez, présidente, coach et tout quand je regarde un match.
Donc vous donnez votre avis. Mais là, en l'occurrence, hier, vous le suiviez.
Oui, avec, on se disait, c'est pas possible. Monsieur Brou nous avait dit qu'on serait même pas en quart de finale.
J'ai
et
dit
on
ça,
est
moi.
En demi-finale. Oh oui.
Je dis des bêtises, vous savez, parfois.
Il y a quelques jours, bon, non. Enfin, bon, c'est pas grave.
Non, c'est pas grave, comme vous dites.
Une petite plaisanterie.
Non, mais vous avez bien raison de le dire. Enfin, certains souligneront effectivement que j'ai pas été un bon pronostiqueur. Mais ça arrive.
Voilà, non, mais c'est bien. Mais écoutez, c'est formidable d'être en demi-finale. C'est formidable.
Je suis bien d'accord avec vous. Je suis bien d'accord avec vous.
Mais oui. Bon, moi, mais fouteux, au moins, de temps en temps. Voilà, ça nous fait plaisir de voir que Paris, malgré tout ce qu'on peut dire sur Paris, Paris est magique.
Paris est magique. Bon, écoutez, absolument. Merci beaucoup, Babette.
C'est moi qui vous remercie beaucoup.
Non, et bonne journée dans le Var.
Merci beaucoup. Merci bien, bonne fin d'émission.
Merci, c'est gentil. Jackie est là. Bonjour, Jackie, qui habite l'Ille-et-Vilaine.
Oui, bonjour, Pascal.
Et merci d'être avec nous.
Assis à côté de Rennes, pour ce
Vous connaissez. Nous appelez parfois.
Ah, souvent, pour parler foot.
Bien sûr.
Donc, effectivement, moi, j'ai eu la chance, de regarder le match, effectivement, en streaming, comme votre collaborateur au Standard.
C'est-à-dire en streaming, ça veut dire quoi? Vous n'êtes pas abonné, vous l'avez?
Je suis pas abonné RMC, je le serai jamais, mais donc, effectivement, on a la possibilité aujourd'hui via...
Non, mais ça, c'est illégal, ce que vous avez fait.
C'est illégal, je sais pas, mais il y a beaucoup de gens effectivement qui font comme moi. Alors c'est du russe, hein. C'était du russe. Alors les commentaires c'était pas terrible.
Non, mais ce qui me frappe, c'est vous avez vu le match sur une télé russe, c'est ça?
Ouais.
Mais comment vous y arrivez, si j'ose dire, à faire
Je baisse le son et puis je me fais tout seul les commentaires. Mais
non, mais ça je veux bien. Mais comment vous arrivez à capter cette télé russe?
Comment on appelle ça, des serveurs qui existent aujourd'hui sur la toile et puis qui
si vous voulez. C'est sur votre ordinateur.
Ouais.
Mais c'est un vrai souci pour les détenteurs de droits, ce que vous dites.
C'est pas nouveau, je veux dire, c'est pas quelque chose. À partir du moment où on arrivera un jour à avoir effectivement un bouquet qui rassemble, on va dire, tous les différents programmes. Et
l'année prochaine, ça sera sur Canal+, la Ligue des Champions. Mais
voilà.
c'est d'un bon.
Canal, par contre, il n'y a pas de souci. Voilà.
Mais c'est d'une bonne qualité, par exemple, le match que vous regardez hier soir, ou c'est une dégradée?
Vous êtes entrecoupé de publicité, puis parfois, effectivement, d'interruption, donc il faut relancer. Bon, après, globalement, c'est pas mal quand même.
Ouais, oui, et puis c'est zéro franc, quoi. Zéro euro même.
Ouais. Mais bon, pour revenir au match, c'est le plus important.
Je suis sûr que c'est très intéressant ce que vous dites, parce que les gens, ça les passionne de savoir que. Je vous dis, les détenteurs de trois, c'est une horreur.
Comme moi, à chaque fois que vous avez les matchs de Ligue des Champions aujourd'hui, c'est une réalité, ça.
J'imagine.
Je ne suis pas le seul dans ce cas-là.
Bon, Jackie, vous avez aimé le PSG?
Oui, j'ai aimé en fait l'équipe du PSG. Alors votre auditeur supporter marseillais, effectivement, considère que c'est pas une équipe. Je le considérais un peu comme ça, effectivement, l'année dernière, même jusqu'à l'arrivée en finale de Ligue des Champions. Aujourd'hui, effectivement, ils ont un petit peu changé de registre. Le projet de jeu est un peu différent. On est effectivement sur les différentes lignes de façon assez performante. Et là, effectivement, face à la meilleure équipe du monde, hein, clairement, j'ai pris du plaisir à regarder ce match, et ça faisait longtemps. Hein. Vous dites les stades vides, c'est une tristesse. Effectivement, c'est une tristesse. Le championnat français, c'est une tristesse. Je regarde le Stade Rennais, je suis supporter rennais, un dirigeant et éducateur Stade Rennais. Je prends pas forcément du plaisir à regarder tous ces matchs tous les week-ends. Mais là, franchement, super, un super match, deux superbes équipes, du rythme et effectivement une qualité technique qu'on a longtemps pas vue des deux côtés. Et ça, bah, face à une opposition comme ça, le PSG s'est très bien comporté. On a eu, on parlait de chance tout à l'heure, la malchance de ne pas pouvoir marquer en première mi-temps, sans quoi effectivement il n'y a plus de match. Hein. Si Neymar met ses trois occasions nettes qu'il a, bah, effectivement à la mi-temps c'est plié, hein, il n'y a plus rien à dire. Au lieu de ça, bah, effectivement il y a eu un suspense incroyable jusqu'au bout. Moi j'ai tremblé jusqu'au bout pour la qualif effectivement du PSG. On a réussi effectivement à contrer tout ça. Le gardien était à la hauteur. Sané m'a fait très peur. Il a été excellent en face et bon, bah, malheureusement il fait des mauvais choix. Bon, tant mieux pour nous. Alors dire que le PSG effectivement a eu beaucoup de chance, je suis pas d'accord. Le PSG effectivement a des arguments à faire valoir hein, dans sa ligne offensive avec Neymar et Mbappé. Effectivement, vous leur donnez du ballon, vous jouez. Si l'équipe d'en haut, d'en face joue très haut, il y a effectivement des boulevards qui s'ouvrent derrière et là on est très très rapide et en contre on est imbattable. Donc on va jouer certainement là-dessus à l'avenir. Moi je souhaite effectivement que ce soit City parce que c'est une équipe effectivement qui imposera son jeu, qui aura le ballon et nous on jouera en contre et ça nous va très bien comme modèle effectivement d'opposition. Donc et puis quand on a battu le Barça, qu'on a battu le champion d'Europe en titre, il y a une stat qui dit qu'on est comme normalement le futur vainqueur. Donc j'espère que la stat elle sera bonne et puis que jusqu'au bout on ira au bout et les trois prochains matchs on les gagnera pour avoir ce titre que le PSG attend depuis 50 ans, je crois que c'est
exactement
à peu près ça,
hein. C'était en 93 voilà. Qu'un club français a gagné. Merci beaucoup Jackie. Alors on attendait une information extrêmement importante aujourd'hui dans le cadre de l'affaire Sarah Halimi et elle concerne bien sûr le meurtre de cette femme juive en avril 2017 et si vous vous souvenez de cette affaire en décembre 2019, la cour d'appel de Paris avait conclu à l'irresponsabilité pénale de monsieur Traoré qui était l'auteur des faits. Et on attendait aujourd'hui le résultat de la Cour de cassation. Eh bien, la Cour de cassation vient de confirmer l'arrêt de la Cour d'appel de Paris. C'est-à-dire que M. Traoré est jugé irresponsable des faits. Donc, il n'y aura pas de procès dans l'affaire Sarah Halimi. Et c'est un traitement de cette information, traitement judiciaire, qui avait été assez important ces derniers mois, et notamment l'émotion des juifs français qui pouvaient regretter que l'affaire Sarah Halimi n'ait pas de procès. Donc c'est la décision aujourd'hui de la Cour de cassation. J'imagine qu'on en reparlera ces prochaines heures. Laurent Tessier, vous vouliez dire quelque chose peut-être ?
L'heure du débrief.
L'heure du débrief, c'est maintenant.
13h, 14h30. Les auditeurs ont la parole sur RTL. C'est l'heure du débrief de l'émission. Par Laurent Tessier.
Souhaitez-vous voir des procès à la télévision ? Craignez-vous une justice spectacle ? C'est la crainte d'Alexandre.
Un nouveau programme télévisuel, Tribunal à Story.
Filmé dans un loft de 225 mètres carrés.
Ah mais non ! Rectification, Pascal !
C'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça parce que ce sera jamais en direct, par exemple. Mais c'est interprété parfois comme ça dans le public.
Alors, Charles est juriste et l'idée le séduit.
Moi, je suis très favorable à cette réforme, enfin à cette idée, parce que je pense qu'elle est pédagogique. En fait, la justice est détestée en France. Enfin, c'est mon impression. Elle est détestée parce qu'elle est méconnue.
Théo, étudiant en droit, lui, n'est pas du tout rassuré.
Je vois surtout une manœuvre politique. Moi, je pense pas que ça aura vraiment d'effet sur la vision des Français vis-à-vis de la justice, parce que il y a des centaines de procès chaque jour, et lui, il va en diffuser au compte-gouttes chaque semaine quelques-uns. Donc, il y aura pas vraiment une vision d'ensemble sur la justice.
Et dans l'émission, nous donnons aussi des idées à Christian Olivier, le chef du service des sports de RTL.
Je lui propose cette question. Les procès télévisés seront-ils à la justice ce que la VAR fut au football.
Aïe, 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 le sujet polémique pour Christian Olivier. Cher Christian, tiens, qu'en pensez-vous ?
On va se régaler, je vous l'assure.
Ah, mais suivez-vous attentivement l'émission, cher ami Pascal.
Bonjour Marie, qui est commerciale. Alors c'est bien parce qu'on a que des femmes aujourd'hui. Parfois on a que des hommes et parfois on a que des femmes et je ne sais pas pourquoi.
Que des femmes aujourd'hui. Alors écoutons le début de l'émission. Pour plaire à Christian Olivier, demandons à Greg Caranoni la VAR, l'arbitrage audio.
et David est avec nous. Mais on va peut-être prendre, pourquoi pas, Charles, qui est juriste. Théo est avec nous. Bonjour Théo, vous êtes étudiant en 3.
Bon, on a oublié quelques auditeurs au début de l'émission. Et c'est le message Twitter qui fait parler. La marque d'eau Evian a publié hier sur son compte retweeté si vous avez déjà bu un litre aujourd'hui. Bon, bad buzz, des internautes de confession musulmane se sont sentis offensés, comme le ramadan a démarré hier. Arnould, une réaction ?
Je suis désolé, je vais pour la première fois à l'antenne être vulgaire, mais la religion me fait chier.
Ah oui, ça c'est direct.
Oui, ça mérite d'être clair. Evian s'est excusé, autre chose à rajouter Arnould ?
La religion doit rester dans la sphère privée, pas dans la sphère publique. Alors je suis consommateur de Evian, je n'achèterai plus d'Evian, parce que je trouve ça lamentable que Evian se soit excusé.
Majid est étudiant de confession musulmane, a-t-il été choqué par ce tweet d'Evian ?
J'ai pas été offensé une seconde, et qui plus est, j'ose espérer que la majorité des musulmans n'ont pas été offensés par ce tweet, qui était clairement pas une attaque.
Bon, pour arrêter avec ce déferlement d'insultes, de colère sur les réseaux sociaux, une proposition Pascal ?
Tous les gens en fait qui ont une représentation sociale, économique, politique, tout ce que vous voulez, se désabonner dans la même journée de Twitter, tous.
On est d'accord.
Ça tue Twitter. Et on n'y va plus.
Je suis d'accord.
Tout le monde se désabonne. Immédiatement.
C'est une très bonne solution.
Une réaction de Pierre-Louis, notre community manager qui s'occupe des réseaux sociaux de la mi-journée. Ça ne va pas. Et puis hier soir, mesdames, messieurs...
Pas de balle.
Oui, le Paris Saint-Germain s'est qualifié pour les demi-finales de la Ligue des Champions. Les Parisiens ont éliminé le Bayern Munich.
Philippe Sanfourche, il était au bord de l'apoplexie.
Pour le plaisir, écoutons la fin du match. Comment a fini Philippe Sanfourche après 1h30 de stress?
C'est fini! C'est oui. Fini, monsieur Orsato libère le Parc des Princes. Presnel Kimpembe, genou à terre, bras vers le ciel. Le Paris Saint-Germain l'a fait. Le Paris Saint-Germain vient de sortir le Bayern Munich.
Champion, ça allait le débrief pour aujourd'hui, c'est terminé. On se quitte avec la chanson que n'a jamais chanté le PSG en Ligue des Champions.
Ça, c'est méchant.
Pas encore!
Pourquoi pas cette année ? Flavie Flamand dans une seconde.
Pascal Praud, les auditeurs ont la parole sur RT.